Bonjour Marc Girard.
Bonjour.
La campagne de vaccination pour le grand public commence aujourd'hui, campagne de vaccination contre la grippe A. Ce sont les personnes dites à risque qui sont les premières invitées à se faire vacciner. 6 millions de personnes sont concernées. Vous n'êtes pas du tout favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, à cette campagne de vaccination. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons ?
Alors, bon, je pense que j'ai une petite prétention quand je viens dans les médias. C'est que, après m'avoir écouté, les gens se disent, se sentent plus intelligents, non pas parce que je suis plus intelligent, mais parce que j'essaye de leur expliquer les choses et de pas les prendre pour des imbéciles. Et donc, plutôt que de céder à l'alarmisme actuel du ministère qui consiste à monter en épingle le moindre décès, je pense qu'il faut donner un peu de recul aux gens qui nous écoutent et les aider à prendre le problème dans toute sa dimension historique. Alors, bon, il faut déjà remettre en contexte qu'on savait très bien depuis des années que l'industrie pharmaceutique qui voyait l'épuisement des grands brevets, des grands médicaments, etc., et ne parvenait pas à innover, allait essayer de se refaire une santé financière sur les vaccins. Donc, on le savait très bien. Il y a eu cette fameuse histoire du vaccin contre l'hépatite B, où j'ai fourni tous les documents dans mon livre montrant que ça a été un projet du marketing pharmaceutique qui a été endossé par l'OMS. Et bon, ensuite, il y a eu la grippe aviaire. Je rappelle quand même ici que j'ai dû être un des rares à écrire une lettre ouverte au directeur de l'OMS dès 2004 pour lui dire de qui se moque-t-on. Donc les Français, ils se rappellent bien de ça. Et là, aujourd'hui, la question, elle est très simple. C'est premièrement, où elle est cette pandémie ? Où elle est cette épidémie ? Au moment où s'est constituée l'épidémie, c'est-à-dire en mai-juin, bon, on apprend aujourd'hui, enfin au moment où s'est constitué l'alarmisme, où on nous a dit c'est très grave, on apprend aujourd'hui, on vient nous le dire à la télé, les Français l'ont entendu, il y avait en fait que 4% des gens qui étaient réputés avoir une grippe porcine, qu'ils l'avaient quand on faisait des tests. Donc, clairement, c'est foutu du monde. Et donc, ma première remarque, c'est où elle est, cette pandémie ? La deuxième question... Pardon ?
Allez-y. Non, mais c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de savoir au fond, ce que vous dites, c'est qu'on en fait trop par rapport à une pandémie qui n'est pas arrivée, voilà, et à un risque qui n'est pas aussi important que ce qu'on nous a dit, voilà. Ou bien... il y a un risque avec ce vaccin, parce que c'est aussi ça la grande question.
De toute façon, on peut pas séparer les deux, parce que on est dans la question qu'ont parfaitement bien compris les Français également, qui est la question du rapport bénéfice-risque. Si vous avez une maladie grave ou si vous êtes à risque d'une maladie grave, tout le monde peut admettre de prendre un médicament qui expose à des risques. Là, on a peut-être un nouveau virus, mais un nouveau virus qui est pas si répandu que ça, 4%, je rappelle, au mois de juin. Et ce virus, tout le monde s'accorde à dire, il est bénin. Alors, donc, il peut muter, mais il peut muter encore plus bien. Donc, on va nous proposer un vaccin. Je redis, contre Madame Bachelot, contre le directeur de la DGS, qui soit ne sont pas informés, soit mentent, que lorsqu'on va sur le site de l'Agence européenne, il est écrit noir sur blanc que ce vaccin n'est pas un vaccin comme les autres, mais qu'il a été développé dans des circonstances exceptionnelles et par conséquent, qu'on n'a pas de données suffisantes sur l'efficacité et sur la tolérance. Alors, par conséquent, on a encore moins de données sur le rapport bénéfice-risque. Maintenant, quand on regarde les quelques données qui sont quand même disponibles avec un regard de spécialiste, bon, on se rend compte que c'est effrayant. Par exemple, il y a un essai clinique avec 1100 patients, il y a un mort. Alors, c'est pas lié au vaccin. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Ça fait 30 ans que je fais du développement.
En temps normal, dans l'industrie pharmaceutique, lorsqu'il y a un mort sur un essai qui porte sur 1100 personnes, on considère que c'est trop?
C'est-à-dire, on commence à réfléchir et on dit pas comme ça d'un revers de la main, c'est pas le vaccin. Surtout, encore une fois, pour un produit à usage préventif. Lorsque vous développez un produit, par exemple, contre le stade terminal du cancer de l'ovaire, bien sûr, des morts, on en a tous les jours pendant les essais. Mais là, on s'adresse à des jeunes gens, on s'adresse à des enfants, pour une grippe dont tout le monde nous dit elle va être vachement bénigne. Et on vous dit, il y a un mort comme ça. On vous dit, on est content parce qu'il n'y avait pas de fièvre à plus de 40 degrés. C'est écrit noir sur blanc. Alors, une fièvre à plus de 40 degrés, je ne veux pas ironiser, mais quand on a la grippe, on est proche de la réanimation. Voilà où on en est.
Alors, je vais vous poser quelques questions assez simples. Pourquoi deux injections, puisqu'on nous dit qu'a priori, une devrait suffire ?
Alors là, pour le spécialiste du développement pharmaceutique, pour le spécialiste du médicament, il y a déjà là un scandale palpable. C'est-à-dire que savoir si on va mettre 1, 2, 3, 10 doses ou je ne sais pas quoi, ça s'appelle le dose ranging, la recherche de doses. Donc, c'est quelque chose qui, au cours du développement, se fait en phase 2, avant les les essais cliniques dits de phase 3 et bien entendu avant l'AMM. Et là, on nous dit gentiment,
c'est l'AMM, écoutez, c'est l'autorisation
avant l'autorisation
mise sur,
mis sur le marché. Je crois que les Français ont fini par comprendre d'ailleurs. Et là, on nous dit, une fois que le médicament est sur le marché, finalement, on ne sait pas à quelle dose faut le prescrire. Mais c'est quand même, on voudrait, comme je disais l'autre jour, si un jour il y a une instruction, le juge d'instruction, il va pas avoir beaucoup de mal à avoir des aveux. C'est-à-dire, on nous dit clairement, le développement du vaccin, il a été bâclé.
Alors, autre question, il y a le vaccin par injection, simple ou double, il y a le spray nasal, ce qu'on a vu aux États-Unis par exemple. Pourquoi y a-t-il autant de protocoles différents? Est-ce que ça veut dire que c'est autant de vaccins différents?
Alors, c'est un problème effectivement très important. On essaye de nous dire, en fait, c'est pas un nouveau vaccin, on connaît ça très bien, donc on pouvait aller vite. Alors moi, je comprends pas. Ce virus, il est tellement nouveau que c'est la catastrophe et tout le monde doit paniquer. Puis par contre, quand on le met, ou sous forme en tout cas d'antigène, dans un vaccin, c'est un truc parfaitement connu, banal, il n'y a pas de problème. Oh, les Français comprennent très bien qu'on se moque d'eux.
Les adjuvants sont un motif d'inquiétude. Pourquoi y aura-t-il une version du vaccin avec et une autre sans adjuvant?
Les adjuvants, l'espèce, sont un petit peu un faux problème dans la mesure où, moi, ce que je dis, c'est que le vaccin avec adjuvant, il a été déjà bâclé. Alors maintenant, pour faire plaisir aux gens, on dit, on va vous faire un vaccin vite fait, bien fait, sans adjuvant, mais il va être encore plus bâclé.
Vous appelez, docteur Girard, les professionnels de santé à la désobéissance civique. Pourquoi allez-vous jusque-là?
Ah là, je crois que c'est un scandale qui doit être médiatisé à sa mesure. C'est la première fois, à ma connaissance, que la force publique est requise pour aller au bout d'une histoire de promotion pharmaceutique et aider à écouler des stocks qui ont été acquis au terme d'un processus absolument atterrant où il est difficile de faire la part de l'incompétence et de la corruption. Et je pèse mes mots.
10%, dit-on, pour l'instant seulement des personnels de santé sont vaccinés. Vous y voyez une manifestation de défiance?
Absolument, et j'espère y avoir contribué.
Merci Marc Girard. Bonne journée.